Alors bonjour, bienvenue à vous, merci d'être là, de nous suivre dans nos allers-retours. Je m'appelle toujours Laurence, je suis toujours membre du bureau et avec plaisir d'une île des auteurs et très ravie de vous accueillir. Je vais me faire toute petite, je ne vais pas parler beaucoup parce que l'objectif c'est de vous le livrer bien sûr, à vous. Cette voix du matin que vous entendez peut-être si vous faites partie de cette corde, pas loin de 7 millions d'individus, c'est pas loin d'eux, hein, parce qu'il paraît que c'est pas complètement le vrai chiffre, mais faut pas le dire. Et 7 millions d'auditeurs pour la belle France Inter. Pour ce qui est de l'actualité récente, sachez pour les coulisses de la radio que voilà, vous signez aussi une petite par révolution, mais agencement de placement de la revue de presse dans la grille de France Inter, qui contribue peut-être aussi à ce succès, c'est que on se disait ça en préparant tout à l'heure, la revue de presse faisait partie de tout un bloc du temps de Patrick Cohen. Elle a été vers le 8h30 et elle a été déplacée à 8h45 pour devenir un exercice, j'allais dire, en soi. C'est toujours un exercice en soi, mais vraiment un moment. Et je ne sais pas pour vous si c'est le cas. Pour moi, c'est le cas. Mais voilà, il y a le moment Asco, le moment Claude Asklovitch. Il y a cette mélopée. On va essayer d'en parler aussi, ce phrasé tout de même un peu particulier. Peut-être lié au fait que c'est aussi le papa d'un comédien, Théo Asklovitch, qui porte un très beau texte au théâtre, semble-t-il, en ce moment. Donc peut-être que ça, c'est un lien. Peut-être que vous n'en avez pas l'ensemble, parce que vous avez deux grands-enfants, Camille et Théo, et puis deux formidables petits bouts qui sont là, qui viennent soutenir leur père. Donc je leur dis bravo et coucou, et qui profitent si bien de cette île Dieu.
Octave et Léon.
Voilà, où vous venez. Merci. Si, non, mais j'allais, mais bravo. De cette île Dieu dont vous profitez depuis quelques années, grâce à cette découverte faite avec Nolwenn, votre compagne, qui est là, qui est journaliste aussi. Pour certains, on vous a peut-être découvert sur l'île Dieu lors de nos rencontres avec les auteurs. Je laisse les gens le temps de s'installer. Vous signez un livre qui s'appelle « À son ombre » aux éditions Grasset. Et vous avez fait l'amitié de venir le signer l'an passé, puisque vous savez que la présentation des livres et des auteurs a lieu tous les deux ans. Voilà, chacun commence à s'installer. D'abord, vraiment, vraiment merci Claude Asklovitch d'être avec nous ce matin, parce que j'ai cru comprendre lors de ce formidable petit café qu'on a pris ce matin que vous faites violence. Les vacances ici à l'île-Dieu, pour vous, c'est sacré, c'est sanctuarisé, c'est l'occasion de raccrocher vraiment tout, pas le combiné, parce que ça n'existe plus trop, mais en tout cas, cette lecture de la presse des potrons minés, on verra exactement quelle heure pour comprendre les coulisses. Vous m'avez dit, voilà, moi je décroche, je fais du vélo jusqu'à 50, 60 kilomètres, je ne sais pas, faites des ronds sur l'île.
Il y a un jeune homme qui a le maillot de Bernard Thévenet ou de Jean-Pierre Danguillaume, juste là, si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Et voilà, je voudrais juste du respect pour ce maillot.
Vous voyez à quel point, bravo, le lecteur fin de l'équipe, parce que s'il y a bien un journal que vous n'arrêtez pas de lire et d'acheter pendant même les vacances, c'est bien l'équipe, on est d'accord. Donc, être là avec nous ce matin, c'est vraiment vous faire un peu violence, mais je ne doute pas que c'est quand même avec un petit peu de plaisir. Nous y voilà donc, tout le monde est assis. Re-bonjour à tous. Alors, qui est-il, cet homme, moi, je trouve assez inattendu, confrère journaliste, qu'on écoute donc le matin, qu'on a peut-être lu, alors, ça part avec le foot, Basile Boli, ça part avec une certaine biographie, avec certaines rencontres, mais ce n'est pas de ça dont on va parler ce matin. Ce matin, ce qu'on voulait, et ce que le bureau animé par Arnaud Langlois-Meurine, Anita Poiret, Marie-Laure de Cazotte, c'était d'avoir votre point de vue sur la presse, vous qui la découvrez tous les matins. D'abord, techniquement, comment ça se passe? C'est là, votre corps commence déjà à se rappeler à vous, parce que la rentrée, ça va être dans une semaine, cette rentrée radiophonique sur France Inter. Donc le cerveau commence déjà à vous réveiller tôt le matin et à être prêt pour quoi? 2h, 3h du mat?
Alors techniquement, mes nuits sont plus belles que vos jours, puisque pendant vos nuits, à partir de 3h du matin environ, je lis ou je scanne les journaux, quarantaine de titres cinquantaine de titres, quarantaine de titres, on va dire, chaque matin, à partir de 2h30, 3h. Effectivement, le corps est une chose bizarre. Depuis 2-3 nuits, je me réveille vers 3h du matin, ce qui fait que je suis prêt. C'est un syndrome, c'est une maladie, c'est une perversion. Ce qui est pour ça que je suis d'une absence totale aux aventures de l'île-dieu d'habitude. Ce matin, quand on a pris le café, je me suis fait pourrir, à juste titre, comme faisant mal mon métier, à juste titre, parce que ne citant pas les articles ayant trait à l'île-dieu, ou les citant insuffisamment, notamment ceux qui ont trait à ces familles d'îlets, une vingtaine, c'est ce que tu m'as dit, c'est ça, qui n'auront pas de logement sur l'île à la rentrée, parce que des gens comme nous, achètent des maisons, mais elles sont vendues volontairement, et des enfants de l'île ne peuvent plus s'y loger. C'est un cas qui existe dans toute la France. Il y a eu des articles, il y a une association. L'autre jour, quand j'ai vu que cette association occupait la place juste derrière le port, j'ai cru que c'était un happening théâtral. Et sur mon vélo, transpirant, je ne me suis pas arrêté. Je suis un imbécile. Ma seule excuse, c'est que dans les vacances, je coupe totalement et je ne lis que l'équipe pour ne pas lire les 40 journaux. Mais ce n'est pas une raison. Et donc, j'ai pris le ferme engagement de m'abonner à 2-3 journaux supplémentaires pour ne pas laisser l'île-dieu en dehors du boulot. Même si l'île-dieu, pour moi, était sanctuarisé. Mais c'est horrible. Vous n'êtes pas un sanctuaire, quoi. Donc voilà, je suis désolé.
Mais alors techniquement, alors, le matin, parce
alors,
que
alors la revue de presse est une. En réalité, c'est absolument génial. Vous lisez tous, ou vous ne lisez plus, ou vous avez lu un ou deux journaux. En général, c'est l'Équipe et un autre, ou Le Monde et un autre, ou Témoignage chrétien et un autre, ou La Croix et un autre, ou peu importe et un autre. J'ai la chance extraordinaire. J'ai eu la chance à partir de mes 54 ans, donc quand je commençais à voir le bout d'une carrière un peu brinzingue, de me voir offrir la possibilité de lire tous les journaux français. Et c'est une possibilité, c'est une chance extraordinaire, y compris parmi les noms glorieux, célèbres qui m'ont précédé dans l'exercice de la revue de presse. Quand j'étais môme, quand vous étiez môme, quand certains d'entre nous étaient môme, ou qui s'en souviennent, on écoutait sur Europe 1, puis sur France Inter, Yvan Levaille, à l'époque de la revue de presse d'Yvan Levaille, Yvan, qui était un grand paresseux et un génie absolu, se levait vers 6 heures du matin pour venir à la radio, de chic, lire 4 éditoriaux et faire un truc magnifique. Moi, c'est pas ça, je suis un besogneux et je suis rentré dans l'âge d'Internet. C'est-à-dire que je peux lire Ouest France sur 12, 15, 20 éditions, c'est juste un problème de temps tous les jours, je peux lire L'Est Républicain sur 4, 5, 6 éditions, etc., tous les matins parce qu'Internet est là. À partir de la veille au soir, vers 22h, ça dépend des journaux. Les journaux sont là sur mon écran. C'est-à-dire que Internet n'est pas juste une saloperie qui véhicule des rumeurs, qui rend les gens idiots, et surtout qui bloque les gens sur ce qu'ils croient déjà, ce qu'on appelle les bulles de confirmation. Je clique sur un site qui me plaît bien et qui va me dire ce que je sais déjà ou crois savoir. Alors que le journal, c'est exactement le contraire. Le journal est un truc qu'on feuillette et qui va vous surprendre à un moment donné. Donc j'ai la chance extraordinaire, à un moment de ma carrière où j'étais déjà vieux, et à un moment où la technologie m'a offert cette possibilité, et à un moment aussi où la presse écrite, vit peut-être son plus bel âge parce qu'elle touche à sa fin. Et nul ne sait à quoi elle ressemblera. Nul ne sait si dans 10 ans, il y aura encore une revue de presse, ou en tout cas si elle sera du même type que celle que je fais encore. Donc je suis un des derniers, peut-être le dernier ou l'avant-dernier, à avoir des journaux qui se vendent tous les matins, mais que je peux lire en PDF et en prolongement sur leur site, tous. L'Est Éclair, la Provence, le Courrier de l'Ouest, la Montagne, le Béret Républicain, les magazines, les hebdos, les mensuels, les quotidiens parisiens, je ne dis pas quotidien national, etc., sont devant moi. Donc la revue de presse n'est qu'une question, en réalité, d'étonnement, de grâce, dirait mon ami Léa Salamé, d'étonnement, de grâce, de rencontre et d'assiduité. C'est très fastidieux. C'est une routine. Je suis debout vers 2h, 2h30 du matin. Je réveille Nolwenn. On dit Nolwenn, pas Nolwenn, parce qu'elle est comme ça. Elle fait semblant de ne pas être réveillée. Je me douche, parce qu'il faut arriver propre au boulot. Et j'y suis. Et je lis. C'est-à-dire, tu cliques, tu ouvres, tu as les journaux papier à partir de 3h30 du matin. Les journaux papier sont des Parisiens, par définition, ils arrivent, les magazines. Et puis tu lis, tu scannes. Brrr. J'ai lu Guerre et Paix en 5 minutes, disait Woody Allen, ça parle de la Russie. Alors, c'est pas ça, mais comme si vous êtes... Mais exactement comme vous, au café, quand vous feuilletez le journal, un article vous arrête et vous dites à votre copain, à votre compagne, à votre compagnon, tiens, t'as vu ça. Donc je suis le mec du t'as vu ça le matin. Et c'est tout bête. Sauf que j'ai un t'as vu ça multiplié par, je vous dis, 40 journaux, et j'en oublie, j'en laisse de côté.
Et se rendre compte que la modernité fait que autrefois, même à nos époques, de début de janvier, les revues de presse n'avaient accès qu'aux éditos de la presse régionale.
Il y avait la presse dite nationale, dite nationale, la presse parisienne, qui arrivait physiquement. Bah oui, tu vas la chercher au kiosque. On te la livrait depuis l'imprimerie. Et le reste, les grands journaux régionaux départementaux envoyés par Telex, truc qui s'appelait le Telex, peu importe. L'éditorial, vachement important, d'un mec qui d'ailleurs habitait Paris, dans le 6e arrondissement, et voilà, qui était un journaliste parisien comme toi. Mais tu faisais croire que tu avais cité dans la Charente libre, non. Oui, c'était dans la Charente libre, mais ça ne parlait pas de la Charente. Ça ne parlait jamais de la Charente. C'était ça le principe. Et c'était de la faute à personne. C'était comme ça. Il y a quelques mois, donc cette nuit, mon corps s'est rappelé à ses obligations et j'étais avec les yeux comme ça, comme un imbécile. Je suis allé chercher mon portable qui était mis à charger au fond de la pièce parce que la prise électrique de notre chambre, de mon côté du lit, est cassée. Et Mlevenne ne veut rien entendre pour changer parce qu'elle dit que c'est sa maison. Et donc voilà, donc je suis allé chercher mon portable à pas de loup et j'ai commencé à regarder. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter voilà. Et je suis allé retrouver des papiers. Ce qui est assez intéressant dans le journal, c'est qu'il vous imprègne plus qu'il ne vous informe en réalité. Ça crée une sensibilité, ça, c'est des souvenirs, c'est des parfums. Il y a quelques mois, dans le Berry républicain, j'ai lu un papier, c'était peut-être en février, mais qui était un bijou absolu. Je retrouvais, après je vais sortir mon portable pour trouver le nom du confrère, je suis un imbécile, mais c'est comme ça, je vois trop de noms. Qui était un bijou absolu sur un village qui venait de perdre son dernier café. Qui autrefois avait 4 cafés. Puis on avait un qui a disparu, qui était un café guinché, c'est-à-dire perché sur les hauteurs. Puis celui-là avait tenu, et le gars racontait le village, on n'entendait plus que le matin que le cri des enfants de l'école maternelle. Donc il y avait encore une école, le village n'était pas mort, mais le café avait cédé. Le truc était un bijou absolu. Et du coup, c'est la chance de la modernité, c'est pour ça que je venais y venir. Je lis cet article, évidemment, je vais le mettre dans la revue de presse, parce qu'on ne fonctionne dans ce métier-là qu'à l'émotion. Ou comme si j'étais en train de dire à Mlevenne, t'as lu cet article, fous-moi la paix, je dors. Voilà, un truc comme ça. Mais si, lis-le, bon, je le lis. Et je google le type, parce qu'on est quand même dans la modernité. Et je me rends compte que mon confrère est un écrivain, qu'il tient un blog sur Vierzon, que c'est un écrivain absolu d'un petit coin de France, dans le Berry, près de Vierzon. Maintenant, avec une habileté confondante, je vais retrouver tout ce qu'il m'avait raconté, parce qu'après, on avait échangé. Avec mes excuses, voilà, vas-y, meuble-toi. Rémi Beurion, B-E-U-R-I-O-N, et le village s'appelle Parassy. Donc, tu es dans le matin, tu penses que tu vas t'ennuyer, tu es arrivé. Une matinale radio, c'est des choses assez simples. C'est des gens qui sont très professionnels, très courtois les uns envers les autres, qui sont l'émanation de tout un travail d'une rédaction, et concernant France Inter, de plusieurs rédactions. Parce qu'on récupère les papiers des antennes locales, ce qu'on appelle antennes locales, c'est-à-dire des stations France Bleu, mais également des confrères de France Info. Et tout ceci arrive, donc c'est très studieux. Tu as un rédacteur en chef, un type absolument génial et qui pratique avec moi des blagues qu'on ne devrait plus pratiquer aujourd'hui, sinon on perd son boulot. Mais personne ne sait, ça se passe la nuit. Tu as 3 présentateurs de journaux, ça s'appelle Michael Thébault, si un jour, voilà, défendez-le. Demorand et Salamé, qui sont les co-présentateurs de Tranche, je reviens un peu plus tard. Eux sont là au boulot depuis 1h30, 2h du matin. Moi, j'arrive vers 3h. Et il se passe quoi? Il se passe rien, il n'y a rien dedans. Il n'y a jamais rien dans l'actu quand tu vas vers les journaux. Et je ne parle pas de la presse dite, de la presse parisienne. Il y a toujours quelque chose. Donc, un matin, j'ai un éblouissement sur un village qui s'appelle Parassy et sur un confrère, M. Beurion, qui est également écrivain. Et après, la limite des journaux, c'est que je devrais tous les jours aller sur le blog de Rémi Beurion. Et bien sûr, je n'y vais pas. Parce qu'un journal est aussi quelque chose que tu parcours et tu rebondis. Voilà. Chaque matin, en scannant les journaux, que ce soit dans La Croix l'Hebdo, c'est le vendredi, qui est capable de te faire un poème sur une pharmacie qui a été vendue à l'intérieur de laquelle il y avait un palmier. Quand les nouveaux propriétaires sont arrivés, le palmier a disparu et les anciens propriétaires accompagnaient les gens du village ou de la petite ville pour les ordonnances et les nouveaux apprendront à tout moins presser. Un morceau de France. Tu as des papiers. Tu peux tomber dans le Figaro sur un type qui s'appelle Bietri-Rivière, pas Charles Bietri, le journaliste sportif, Bietri-Rivière, qui fait des papiers encore plus beaux que ceux de mon ami Lançon, qui lui est dans Libération, sur des expositions, des œuvres d'art, et j'y apprends quelque chose. Tu peux trouver dans Libération des papiers de philo totalement perchés que je ne verrai pas. Tu peux tomber dans le Figaro sur, je pense, les meilleurs reportages qui ont été faits sur la guerre en Ukraine. J'ai le souvenir d'un reportage sur la guerre en Ukraine qui commençait par un petit soldat dans une tranchée ukrainienne qui avait fini par se suicider en proie à un mal d'amour, et ça n'en finirait jamais. Et c'était au moment où, à juste titre d'ailleurs, on héroïsait la défense ukrainienne, mais ce papier racontait la faiblesse, l'humanité qu'on a connue nous, si on a lu les Croix de Bois, si on a lu, dans lequel qu'on a connue nous dans nos tranchées. Ça commençait comme ça. Et chaque matin, je peux en citer plein d'autres qui m'ont traversé la tête, qui me sont venus cette nuit quand je ne dormais pas. Chaque matin, j'ai la chance de toucher à cela. C'est une chance extraordinaire parce que notre métier s'abîme, parce que notre métier est fatigué, parce que notre métier s'idéologise, parce que le durcissement politique en France, les tensions sociétales, le sentiment qu'à ce pays, comme dirait l'écrivain Tesson, de se croire en enfer alors que nous sommes un paradis, font que souvent les pages nationales ou ce qui revient d'Internet sont remplies de polémiques que je juge odieuses, que des gens trouveront intéressantes, et dont je me suis demandé quand j'ai commencé la revue de presse il y a 5 ans comment je pourrais m'en abstraire. Je fais partie d'une minorité de gens qui ne paniquent pas parce que l'islam est devenu une grande religion de France. Mais voilà, c'est comme ça, on pourra en discuter des heures, mais ce n'est pas le sujet. Je me suis dit, si je rentre là-dedans, dans ce qui fait partie de mes convictions ou de mes marottes, d'abord, je m'approprierai un exercice, la revue de presse, ce qui n'était pas le cas. Et en fait, ça s'est fait tout naturellement, par émerveillement, par imprégnation, par redécouverte en vrac de mon pays, dont la presse, notamment locale, régionale, donne un aperçu de la beauté, de l'envie de vivre et de la vie réelle. Et ce n'est pas seulement du déclin, c'est parfois du déclin, il y a aussi des miracles permanents. Et de mon métier, que j'avais pratiqué depuis une grosse trentaine d'années, 35 ans, parfois bien de manière honorable, parfois moins bien de manière déshonorante, où j'avais connu des périodes de succès, des périodes de chômage. Et à un moment donné, je l'avais perdu un peu de vue. Et étrangement, devenant l'interface entre des auditeurs dans une radio qui marche bien. C'est quoi une radio qui marche bien? C'est une radio où les gens sont heureux de vivre et que des gens sont heureux d'entendre. Des gens qui peuvent détester Inter, ce qui est l'endroit le plus strict. Ils sont bêtes, mais c'est l'endroit le plus strict. Mais un peu comme un footballeur qui arriverait dans une équipe qui tourne. Je suis arrivé à France Inter à la rentrée 2017, au moment où Patrick Cohen, qui avait porté cette matinale à des hauteurs qu'on croyait inégalables, et pourtant elles ont été dépassées, étaient parties, donc tout le monde flippait. Moi, je suis arrivé sur le terrain, ma première revue de presse, je me suis trompé sur le prénom de Kylian Mbappé, ce qui est quand même assez fort pour un lecteur de l'équipe, je flippais un peu. Nicolas Demorand m'a rattrapé, ce qui est assez fort pour Nicolas Demorand, qui ne s'intéresse qu'à un footballeur. Coup de bol, c'était Kylian Mbappé. Et en fait, tu rentres sur le terrain, et en fait, ça joue, il y a des automatismes, pardonnez-moi les métaphores, et ça marche. Et donc, la chance d'être dans un endroit heureux, que des gens aiment bien, avec un moment où la presse vit une espèce d'épiphanie, fait que je n'ai jamais eu, ou pratiquement jamais, à me poser la question des médiocrités qui nourrissent mon fil Twitter, ou les fils Twitter des autres, ou les débats.
Aller chercher donc de quoi être imprégné par ses émotions, aller cueillir ces morceaux de France. Ça, on le saisit. Première question, il y a une mélopée qui s'est installée petit à petit pendant ces 5 années, au fil de ces 5 années. Un certain phrasé, un certain articulé particulier, souvent, j'entends dans cette revue de presse. C'est volontaire, c'est travailler avec Théo. C'est venu comme ça. C'est une bouée à laquelle on se raccroche aussi parfois, la mélopée, parce qu'il est
qui s'appelle le Parassi, dans le Berry, et qui, jusqu'en janvier dernier, possédait un café L'Embuscade. Il était un point fixe en face de l'église, séparé du Saint-Lieu par 2 grands arbres et le monument aux morts. Après la messe, selon baissait la tête, on allait au bistrot et on levait le coude. Mais le Berry républicain me dit que l'église sonne creux désormais. Voilà.
On y est. Ce genre de truc. Ding-dong, 8h45, 11h20.
C'est un cauchemar.
Alors, comment ça s'est installé?
Et en fait, je ne voulais pas faire, parce que sinon je faisais tomber le micro, mais normalement, je fais comme ça. Je ne viens pas de la radio, même si j'en suis maintenant 5 ans, ça commence 6 ans. Je fais un peu Europe 1 avant, donc voilà. J'ai fait une dizaine d'années cumulées de radio, de chronique, mais je ne viens pas de la radio. J'ai une écriture beaucoup plus compliquée élaboré, avec trop de mots, ça peu importe, que l'écriture radio classique. Donc, sont des phrases avec des subordonnées conjonctives et des machins qui auraient fait le délice d'un cours de grammaire sous la Troisième République. Ça ne se dit pas aussi facilement qu'un sujet, un verbe, un compliment. Donc, c'était pas mal ça. Je vais la faire. Un sujet, un verbe, voilà. Donc, à un moment donné, et effectivement, mon grand-fils est comédien. Et quand il débutait, il faisait pas mal de gestes. Il ne les fait plus maintenant. C'est un peu, voilà. Et donc, j'ai compris que ça me portait. C'est-à-dire que j'enlève les mots de la bouche et je les tiens le temps qu'ils arrivent quelque part. Après, je fais des blagues pour embêter mon autre grand-fils qui s'appelle Octave, qui n'aime pas que je prenne des accents, parce qu'il pense que c'est discriminant. Et donc, j'ai une trace d'accent du Sud, surtout quand je cite la Provence. Et ça finit par durer. Donc, en fait, c'est une manie, ou une marotte, ou un folklore, ou un signe de reconnaissance. Et l'autre jour, tu m'as dit, mais en fait, c'était horrible ce que tu m'as dit.
Décidément, je pourris la vie.
T'es prisonnier d'une routine, voilà. Oui. J'ai plus évolué dans ma manière d'aborder ce métier en deux rencontres avec Laurence qu'en cinq années de revue de presse. Et donc, oui. Après, il y a l'effet qui compte aussi de la fatigue. Je pense que je suis plus maniéré, ou dans mes manières, ou dans mes manières de faire. Mais à mon avis, ça vaut pour nous tous. Au mois d'avril, mai, quand ça commence à être long et tu sens l'écurie, qu'au mois de septembre, où tu es tout frais, tu sors de l'île-dieu. Oui. Voilà, ça c'est possible aussi. Alors, si tu as bien dormi, pas bien dormi.
Voilà.
Oui, ça m'aide.
Merci pour cet éclairage sur cette cuisine.
Et regarde, elle le fait
technique.
Aussi. Elle le fait aussi. Elle se fout de ma gueule, mais elle le fait aussi.
Mais non, bah oui, c'est une manière de créer. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Ouais. Bon, donc merci pour cet éclairage sur cette cuisine. Mais plus dans le fond, où est le journaliste de gauche quand il y a cette approche de la revue de presse à faire? Est-ce qu'il y a ces... Qu'en est-il de tous ces filtres politiques qui ont fait aussi le journaliste avec ses hauts et ses bas?
C'est compliqué. Ben, je vous donne un exemple.
Le micro.
Pardon. On n'est pas seulement un journaliste de gauche. Enfin, je suis un mec de gauche. Voilà, regardez, il en reste trois. On m'accompagne là-bas. J'ai les noms des gens qui sont de gauche encore.
Tu veux dire partir dans cette assemblée?
Il y en a là-bas. Non, mais arrêtez aux conneries, là. Mais l'autre jour, j'ai longuement bavardé avec mon copain Bruno Retailleau. Il n'y a pas de problème. Je suis de gauche. Non, on arrête les bêtises.
Non, mais en vrai, non, un filtre, une manière. Parce que voilà, la mission. Il y a une mission derrière cette revue de presse, Claude Raskolovitch?
Oui, justement, il y en a une. France Inter a été portée au niveau qu'on lui connaît aujourd'hui par une femme qui s'appelle Laurence Bloch, qui, quand je suis arrivé, et encore aujourd'hui, me surveillait parfois, pas exagéré non plus, mais comme le lait sur le feu. Parce que dans ma vie, j'écris pas mal de trucs. J'écris une biographie de Jospin, j'écris un livre de grand reportage sur le Front National il y a longtemps, c'était en 99. J'ai fait des ouvrages plus polémiques, j'ai écrit des chroniques. Encore une fois, sur la question de l'islam et de la laïcité, je suis légèrement plus libéral au sens anglo-saxon du terme que le point moyen du Figaro. Voilà. Mais à la limite, peu importe, où importe. Donc je sais qui je suis et elle savait qui j'étais. Ce qui aurait été insoutenable, c'est que je transforme cela en tribune. D'abord, ça aurait été chiant, personne n'aurait écouté.
Oui, et pas forcément les auditeurs aussi.
Oui, non, mais pour tout le monde. Et donc l'idée était d'en faire autre chose. Encore une fois, ça m'est venu par le travail de mes confrères.
Micro.
Ça m'est venu par le travail de mes confrères et de ce qu'ils apportent et m'apportent aujourd'hui. Donc, ce n'était pas très difficile. Et en gros, je ne me surveille pas en disant « Putain, tu vas dire un truc de gauche ». Ce n'est pas ça le sujet. Les histoires viennent assez naturellement. Après, il est évident que, mais en cela, la presse ne m'a pas démenti, je préfère infiniment des histoires comme celle du boulanger de Besançon qui était entré en grève de la faim, c'était raconté dans l'Est républicain,
sur le
découvert, pour qu'on n'expulse pas son apprenti, et d'histoires comme celle-là, vous en avez tout le temps. Quand l'image de la France que vous trouverez dans les journaux qui sont ancrés sur un territoire, pourtant j'emploie une terminologie limite maurassienne, mais qui sont ancrés sur un territoire, qui sont vraiment en symbiose avec lui. Et donc ça peut être aussi bien un site internet de France Bleu qu'un canard catho comme La Croix qui est entré sur un territoire spirituel où on va parler des éditions locales de West France ou d'Est Républicain, peu importe. L'image de la France que vous avez dans des journaux qui sont contact du réel, encore une fois, c'est une terminologie limite maurassienne, mais elle s'applique ici, est infiniment plus riche, plus ouverte, plus complexe, plus attrayante et me convient mieux du coup que les batailles d'éditoriaux ou le énième papier où je vais apprendre que mon pays est en train de disparaître parce qu'il y a trop de gens qui ne ressemblent pas aux populations originelles. En gros, voilà. En gros, je n'ai pas eu à me fâcher contre Éric Zemmour avant que la plupart des gens se fâchent contre lui. Il y avait suffisamment de choses dans la presse qui m'intéressaient, moi, pour me nourrir. Donc ça, c'est un filtre, mais c'est en même temps une évidence. Les journaux, ou ce qu'il en reste, et il y a de beaux restes, et c'est encore assez puissant, représentent la part consciente et lettrée et curieuse et encore ouverte de la société française, ou du peuple, si on parle de territoire populaire au sens social du terme. Les journaux, quand on s'y intéresse, nourrissent ceux d'entre nous qui ont décidé, consciemment, inconsciemment, de ne pas céder à ce qu'ils pensent être la vérité et qui ont décidé de ne pas aller se la faire confirmer jour après jour. Parfois, les journaux sont traversés par des contradictions internes. J'ai autant d'admiration absolue, mais totale, pour Madame Ben, qui est la grande reportrice du Figaro, qui racontait le petit soldat ukrainien, qui a fait d'autres papiers éblouissants sur l'Afghanistan, ou pour Éric Bietré-Rivière, que j'ai de désintérêt pour la plupart des éditoriaux que je vais trouver sur le site Figaro Vox. Mais ça peut se décliner sur d'autres journaux. Il y a des choses qui ont cessé de m'intéresser parce qu'elles se confirment, parce qu'elles se répondent, parce qu'on se dit toujours la même chose. Elles ont d'autant plus cessé de m'intéresser que j'ai été cela et que je le suis aussi en partie. J'ai un socle de conviction ou d'habitude que je serais capable, si j'étais éditorialiste, de répéter jour après jour. Il y aurait des gens qui feraient bravo, d'autres qui ne voudraient même pas écouter. Je fais partie maintenant des gens qui écoutent très peu. Ça ne veut pas dire que je ne prendrai pas de papier intello ou de papier de débat. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus un bonhomme pour lequel j'ai une affection absolue tout en étant en désaccord total. Et tout ceci peut être amendé, qui s'appelle Alain Finkielkraut, que je connais depuis longtemps. Voilà. Mais dans le cadre de la revue de presse, là, je suis en train de vous parler de moi, ça se pose très peu. En gros, voilà, je suis de gauche, on va dire ça comme ça. Tesson, pas le vieux, le jeune, celui qui est tombé en faisant de l'alpinisme, est un écrivain réactionnaire sublime, dont j'adore les papiers, dont je vais citer, en veux-tu, en voilà, l'extrait d'un bouquin collectif sur une abbaye ultra-réactionnaire à La Grasse, dans l'Aude, que j'aurais lu parce que je lis l'Indépendant édition de l'Aude, et surtout que j'aurais lu dans le Figaro magazine, que je ne serais pas censé citer amplement si j'étais bloqué. Voilà, il y a la part du talent, il y a la part de la nouveauté, il y a la part de la curiosité, il y a la part de l'estime, on n'arrive pas sans filtre. Mais avant tout, il y a, dans ce que je fais, c'est assez basique, ce que vont me donner les journaux. Et ça peut être une photo, ça peut être une, ça peut être un mot. Je suis une éponge. Donc, quand je ressors de l'éponge, je suis comme tout le monde, je vais tweeter. Et alors, Laurence Bloch me dira « Arrête de tweeter, sinon je te vire. Laurence, tu exagères. » Oui, j'exagère, mais j'arrête quand même de tweeter. Voilà, parce que c'est con. Parce qu'en fait, quand on tweet, on est con.
Il y a une grosse seconde partie de journée avec beaucoup de gens qui réagissent, envoient des messages, alors dans la très vindicative, sûrement.
Non, pas tant que ça. Ouais. Pas tant que ça, si.
Peut-être parce que c'est plus
non,
proche
si,
des
si.
Morceaux de France.
Si, si, je peux dire, mais c'est l'abruti de service. Il y a un type qui est avocat et débatteur permanent sur CNews qui régulièrement va dire des conneries sur la matinale de France Inter en disant « Et la revue de presse n'a pas dit qu'il y avait eu un attentat en Israël. » Bah oui, connard, on l'a dit au journal de 7h, 7h30, 8h.
Oui, ça
parce que dans le truc, pardon, j'arrête mes bêtises, mais c'est pas intéressant, j'aurais même pas dû. Pardon,
non,
mais ça donne quelque chose, mais ça donne quelque chose d'intéressant et ça m'aide aussi. On a une rédaction.
Voilà, il y a une coordination, voilà. Pardon, entre l'info.
Absolument.
Et
je n'ouvre pas la revue de presse sur quelque chose qui a été traité dans le journal de 8h, certainement pas, parce que c'est une demi-heure avant moi, de 7h30 limite. Mike, tu fais chier, il y a un super bon papier dans le Figaro, tu es vraiment forcé de faire ton ouverture sur Airbus. Oui, je suis, bon, d'accord, et je ne le mets pas. C'est un ensemble à matinale, même si personne n'a la force de se taper 2 heures de radio, sauf Nicolas Demorand, mais il est payé pour ça, lui. voilà, mais sinon, personne, ça n'existe pas, on finit par aller travailler. Mais on fait en sorte, en gros, si vous écoutez une matinale, soit la nôtre, RTL ou RTL, bon. Le journal de 7h ne commence pas par, comme le 8h, qui ne commence pas par le 7h30. La revue de presse n'est pas agencée, indépendamment même de sa spécificité à mes souhaits, qui est en train de se nourrir de journaux, voilà, qui ont une autre temporalité. Voilà. Mais donc, tu vois, c'est une autre manière aussi d'éviter les sujets, non pas polémiques, mais la médiocrité du tout venant. C'est beau, ça.
Donc, ouais, pas, attendez,
vous
pas
avez en face de vous un mec qui a dit qu'il évitait la médiocrité du tout venant et vous ne lui avez pas encore lancé des pierres. Et donc, je vous remercie de cette indulgence.
Donc, pas de reprise de tout ce qui...
Ah, c'est parce qu'il n'y en a pas. Mais je ne suis pas des glands, quoi.
Donc, pas de reprise de tout ce qui est plus politique ou, ça a été difficile de laisser s'éloigner tout ça ou finalement, cette plongée dans ces morceaux de France, dans ces émotions est suffisamment nourrissante.
Non, ça a été d'une facilité absolue. Un, parce que j'en avais fait le tour. J'en avais fait des bouquins politiques et j'en avais dit des bêtises en politique et j'en avais dit des choses qui étaient peut-être moins bêtes en politique. J'en avais ras-le-bol. Deuxièmement, comme tous les journaux nationaux, ceux de France Inter font une part belle à la politique. Troisièmement, on a un éditorialiste politique extraordinaire qui s'appelle Thomas Legrand, qui va être remplacé par un éditorialiste politique extraordinaire qui est un ilet, les gars. Il y a Elgos, qui est un ilet, qui n'est pas venu, c'est un salopard, ou il n'est pas en vacances, mais c'est un ilet, c'est un mec qui passe tous ses étés sur l'île. Voilà. Et donc, quand tu as déjà un intérêt politique, tu es dans un journal, tu es sur France 1. Il est là, Yael ? T'es où, Yael ? Ah, il n'est pas là, voilà. Lâcheur. Mais bref, il n'y avait pas d'utilité de faire doublon. Les gens qui écoutent France Inter, ils sont très contents de l'édito de Thomas Legrand, ils n'ont pas besoin de l'édito de Libé, de machin. Parfois, je les cite quand ça définit une opposition un peu rigolote, droite-gauche, entre Libé et le Figaro, oui, tu joues avec. Mais ça s'arrête un peu là. Ou sauf un lendemain de présidentiel où là, t'as pas le choix.
Le temps que vous pensiez, prépariez vos questions, le concept, c'est que vous leviez la main, qu'on puisse vous amener le micro pour qu'on enregistre aussi les questions, puisque vous le savez, toutes ces rencontres ont lieu, une rencontre sont retransmises, et merci à eux, par Neptune FM. Les podcasts existent et sont disponibles quelques heures après leur existence dans cette prairie de la citadelle. Le temps que vous réfléchissez à votre question, l'évidente dernière question, êtes-vous résolument encore optimiste pour la presse, Claude Escolovitch ?
D'un point de vue économique, je n'ai pas de culture là-dessus. Sur ce qu'elle est capable de produire, oui, absolument. Sur ce que sont capables de produire des journalistes d'une génération qui n'est pas la mienne, parce que je suis moins jeune que je ne parais, il y a des gens qui font un boulot de dingue. Ouais. De dingue en étant mal payés, etc., et qui continuent. L'émergence de nouveaux titres qui peuvent être très militants, très impliqués, comme La Déferlante, qui est un mensuel féministe, tendance dépente, dans lequel il y a des textes assez étonnants. L'émergence d'un canard qui s'appelle Society, qui s'est installé maintenant, qui est un quinzomadaire. Oui, il y a des choses qui en valent la peine. Le fait qu'un grand journal, le journal d'ici, donc Ouest France, a une verticale. Une verticale, aide-moi, toi, Nolven. Une verticale, c'est l'ensemble de papiers sur un même sujet qu'on va trouver à travers un site, qu'on va retrouver avec un mot-repère. Je fais ce que je peux. Ça s'appelle prolongation. C'est des papiers qui sont du niveau de SoFoot et l'équipe. La rubrique des sports de West France sur le web est extraordinaire. Donc, sur ce qu'elle est capable de produire, oui. Sur la capacité d'une société... Sur la capacité d'une société où l'imbécilité que crée en nous, qu'appelle en nous, les réseaux sociaux et encore pas tous, ou les télés d'infos continues et encore pas toutes. C'est compliqué, il y a des gens très bien et extraordinaires qui bossent. Mais l'envie de s'auto-convaincre et de se revalider, surtout de ne pas bouger de sa bulle, m'inquiète. Parce que par définition, le journal te sort de ta bulle. Il n'est pas possible de rester totalement coincé en feuilletant un canard. Ça n'existe pas. Après, mon rôle à moi, je ne pense pas avoir une grosse influence. Pourtant, France Inter, c'est puissant en termes de vente. Je crois que j'en ai pas. Quand j'en parle avec ma compagne, donc Nolwenn Oblevenek, qui est rédactrice en chef à l'Obs, dont je ne cite jamais les papiers, alors qu'ils sont bien, souvent. Voilà, parce qu'on a de l'éthique quand même. Elle me dit qu'en fait, quand je cite un papier, ça ne fait pas un bond de clic, 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 clic. Tout ça, c'est un autre univers. En revanche... Je peux raconter un morceau du pays ou du monde, parce que voilà. Mais j'avoue, je ne sais pas. Quand j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si je ne fais pas la dernière revue de presse, qui est une prétention extraordinaire, tu sais, et après moi, on brûlera les journaux, ou l'avant-dernière, ou l'antépénultième, ça changera. Je devrais, par exemple, changer, pas seulement pour citer plus les nouvelles qui viennent de l'Île-Dieu, mais je devrais être beaucoup plus présent sur la presse qui naît sur le web. Je le fais, mais un peu, mais pas suffisamment. Je cite beaucoup Uzbek Erika, qui est un canard qui s'intéresse à la modernité, mais c'est déjà vieux, Uzbek Erika. Ouais. Je devrais plus écouter le mec de ma fille qui est sur ces journaux-là. Voilà. Et donc, je suis déjà vieux, faisant un exercice, non pas daté, mais institutionnel ou patrimonial de la radio, sur un genre, la presse dite écrite, qui est en train de se transformer. Et je vois pas comment les gens se passeront de pluie, de parapluie et de journaux.
Parapluie, peut-être. Alors, des questions. Bonjour.
Flora Limercier, une auditrice très, très fidèle. Vous avez parlé de moments de France, d'émotion, mais moi, je voulais aussi parler de l'humanité, qui était un peu le liant de vos revues de presse. J'avais juste une question concernant votre émission de cet été sur France Inter, où vous pouviez développer certains thèmes ou certains faits, je pense, qui vous avaient touché pendant l'année. J'ai trouvé ça très intéressant. Et est-ce que ça va se poursuivre?
Ça se poursuit. On en parle à la rentrée. Je l'espère, en tout cas, l'été prochain et à terme, hebdomadairement. C'est un boulot énorme. Pardon, pour ceux qui n'écoutent pas France Inter, qui sont la majorité des Français quand même. L'émission s'appelle « Ça se passe en France ». En fait, elle ne se résume pas. Un endroit où s'est passé quelque chose. Des gens à qui il est arrivé quelque chose. Reportage pour aller les voir, ils se racontent et ces personnes viennent au micro. Usuellement, dans les radios, quelle qu'elle soit, la nôtre y compris, viennent au micro des experts qui commentent ce qui est arrivé à des gens. On a raconté, par exemple, c'est une émission qui dure 47 minutes, à l'automne dernier en Normandie, c'est un bled qui s'appelle Goderville, trois cantinières de femmes de service ont été accusées d'avoir volé la nourriture des gamins. Ont été virés instantanément, des reportages vite fait, le maire, je les suivais, je m'étais rendu compte qu'elles volaient des quêtes. Bref, elles sont venues raconter leur histoire pour la première fois chez nous. On est allé les voir, ça prend un temps fou. Il y en avait une qui avait failli suicider ou qui, en tout cas, qui avait fortement pensé. Elles n'ont plus rien, n'osaient plus se promener dans les rues du village. Et évidemment, ce n'était pas ça l'histoire. Et donc, elles sont venues à la maison de Radio France, ce qui n'est pas évident quand tu es... quinquagénaire, cantinière, que tu viens d'être traitée de voleuse dans ton village, dans une école où tu as travaillé 27 ans et où tu avais été embauchée comme cuisinière. Parce qu'avant d'être traitée de voleuse, c'est aussi des personnes à qui on avait retiré leur métier. Quand elles étaient entrées dans leur métier, l'une d'elles en tout cas, elles faisaient la cuisine pour les gosses. C'est-à-dire des bûches de Noël à Noël, mais du cassoulet le dimanche, et elles faisaient amoureusement la cuisine. Puis un jour, on lui avait dit bah, « En fait, c'est fini, ma vieille, maintenant tu vas être réchauffe-plat » réchauffe plat industriel pourri. Et les gosses n'aimaient pas les plats industriels pourris. Et de fil en aiguille, leur vie est devenue horrible. Les gosses ne bouffaient pas la nourriture. Elles n'avaient pas de blé, elles prenaient de la nourriture. Pas avant que les gosses les bouffaient, mais plutôt après que les gosses ne les pas bouffaient. Et elles avaient payé pour ça. Et donc on a des histoires comme ça. On a des gens qui sont venus, un couple de femmes qui habitent près d'Avignon. Ils s'étaient rencontrés dans le milieu de la France. Il était un beau mec très dragueur, une petite nana tout effacée. Et puis le mec, c'était un beau mec très dragueur qui allait se promener à l'extérieur. Et un jour, elle dit « Maintenant, j'en peux plus, tu arrêtes. » Non, elle n'a pas cet accent-là du tout. « Maintenant, ça suffit, ça ne va pas, on a deux gosses. Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Bon, ben, je vais devenir une femme. » Parce que le beau mec, super macho, etc., en fait, au fond de lui, il se sentait femme. Et c'est devenu un couple de femmes. Mais ça ne veut rien dire comme ça. On lit des histoires comme ça. On ne m'avait jamais raconté, je suis un vieux mec rempli de préjugés, je ne suis pas toujours de gauche sur tous les sujets, ce qu'est être transgenre comme ces deux femmes-là. Ce que c'est que de passer par des années d'opérations, d'hormones, etc. Ce que c'est de ne plus trouver de boulot, parce que ton numéro de sécurité sociale commence par un 1, mais maintenant tu es un 2, y compris pour l'état civil, donc tu n'y arrives pas. Ce que c'est que de vouloir faire un gosse quand même et de se battre pour être toutes les deux sur l'état civil. Et c'était d'une richesse pour moi, qui était sur cette question des transgenres, certainement plein des préjugés de ma génération, absolument bouleversant et fascinant, y compris dans le rapport à la mémoire. Dans ce couple de femmes, la femme qui avait été un homme n'avait aucun problème à parler de son passé, à regarder les photos du mariage où elle était un beau mec. à regarder l'album de photos où elle était un mec. Alors que la femme qui était restée femme, elle avait dû considérer qu'elle faisait le deuil de son mari, qu'elle était veuve et avait recommencé une autre vie avec son épouse qui était la même. C'était très intéressant et incomplet d'ailleurs la feuille des heures. Voilà, on en a raconté d'autres. Celle de demain raconte un bonhomme qui s'appelle Manuel Sanchez, qui vient de la Nièvre, qui dans les années, au tout début des années 90, avait fait un film sublime qui s'appelle Les Arcandiers, qui racontait, les Arcandiers, c'est les paumés dans le jargon de la Nièvre. Et le film était sorti, aurait dû marcher, n'avait pas marché. Et avait disparu. Et le mec, 30 ans après, s'est battu pour récupérer les droits de son film, pour le refaire vivre. Il habite à Charleville-Mézières, maintenant il est amoureux de Rimbaud. Et il a fini par remontrer son film dans 4-5 cinémas de la Nièvre. Je vois l'histoire dans le journal du centre. Je flash dessus, je la raconte, j'en fais des tonnes. Parce que moi, j'avais vu Les Arcandiers quand c'était sorti, en 91. Et on en a fait une des émissions. Donc le mec raconte, c'est une émission sur la France périphérique, celle qui n'intéressait pas, parce que c'était des paumés de ce qu'on appelle la France périphérique. Mais c'est plus marrant de le dire comme ça, de le raconter à travers un film. Et l'amour du cinéma. Bref, voilà, c'est donc... Ce sont des moments où on prolonge, et j'espère avoir l'occasion, y compris quand j'arrêterai la revue de presse, de faire quelque chose dans ce goût-là. Parce qu'à un moment donné, mon corps va se venger.
Bonjour, Joseph Ancel. Vous avez cité votre brillant collègue Thomas Legrand. Et à propos de l'attentat de la rue de Rennes chez Tati, il avait dit « Le bilan de l'attentat chez Tata s'alourdit ».
Sérieux ?
Bien sûr. Il a fait un remarquable livre qui s'appelle « 10 dyslexiques » et 24 personnalités comme Spielberg, Mohamed Ali, etc. Et c'est un livre sous forme de bande dessinée qui est remarquable. Et je voulais savoir si vous aviez quelque chose à dire, soit sur la dyslexie, soit sur Thomas Legrand, qui a fait carrière malgré cette inversion de syllabes.
Je ne connaissais pas ce bouquin, mais du coup, je vais l'acheter. Comment ? Mais l'attentat de la rue de Rennes, c'était il y a longtemps. Il devait être à RTL à l'époque, ou je ne sais pas où. Ou RMC, il était où Thomas ? Il était à RTL à l'époque. Bon, c'était avant. Alors, je ne suis pas dyslexique. J'ai des gens qui me sont proches qui ont des 10, mais voilà, bon, c'est leur vie privée. Non, Thomas est un mec... Alors, on parlait tout à l'heure du hiatus entre, ou du hiatus possible entre les convictions et ce qu'on exprime à la radio. Thomas, qui est un type qui est, on va dire, écolo de gauche dans tout ce qu'il inspire, républicain, écolo de gauche. La partie républicaine n'est pas pour rien, y compris parfois dans des acceptions un peu fermes, a réussi à partir de son point de vue à faire un éditorial audible, je crois, appréciable, je pense, je sais, j'espère, par des gens, y compris qui ne partagent pas, parce qu'il part d'un point de vue. Il n'assène pas une vérité, il ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent en penser, il exprime en sorte, moi qui suis ce que je suis, voilà ce que je vous explique, je peux vous expliquer, ou voilà ce que je peux vous raconter. C'est la grâce de Thomas, et effectivement, c'est quelqu'un qui a des convictions vraiment ancrées, plus des convictions, une éthique de vie, et qui en a fait quelque chose qui n'était pas hostile aux gens qui ne partagent pas cette vision du monde. Il peut y avoir des gens de droite qui le feraient tout aussi bien. Il se trouve que là, en l'occurrence, Thomas a été embauché, comme quoi les choses changent, par Philippe Val, qui était directeur de France Inter à l'époque, et qui est un type qui vient de la gauche, mais qui était assez proche à l'époque de Sarkozy. Ouais, les choses sont toujours beaucoup plus complexes. Et qui, évidemment, Philippe est marqué par son passage comme directeur à Charlie Hebdo, qu'il ne dirigeait plus au moment de l'attentat, mais... C'est quelqu'un qui vit encore sous protection. Donc tout ceci fabrique des complexités. Thomas est quelqu'un qui affronte les complexités et qui est, voilà, qui est précieux. Il ne quitte pas Inter, hein, il a une émission hebdomadaire. Il m'a expliqué qu'en fait, on va beaucoup plus l'entendre sur Inter en termes de minutes ajoutées. Et il signera dans l'IB, ce qui fait que là il est de gauche.
Alors, y a-t-il une autre question ?
Gwenaël Toutant.
Vous êtes bretonne.
De quoi je me mêle ?
Je m'excuse. Ma copine est bretonne.
J'avais compris.
Bon, bah d'accord.
Mais moi, j'appelle ma fille Nolwenn, avec un W. Voilà.
Bah, c'est sa famille. Hein.
Vous avez commencé cette rencontre.
Tutoyons-nous.
Vous. Vous êtes deux, là. Je m'adresse à vous deux.
Ah, je pensais que c'était moi qui étais l'invité.
Vous avez commencé cette rencontre par un café qui vous a perturbé qui t'a perturbé parce qu'on parlait des îlets qui étaient en problématique de logement. Tu viens de nommer un de tes amis que tu cherches dans l'Assemblée en le nommant comme un îlet.
Non, c'est un îlet un îlet de l'été, bien sûr.
Eh bien voilà, je voudrais la définition d'un îlet quand il y a 20 couples d'îlets de
non,
territoire
c'est des vrais îlets.
Et qui ont besoin d'un logement alors qu'aucun de nous n'a besoin d'un logement.
Bien sûr. Absolument.
Bonjour et merci beaucoup déjà pour tout ce qui se fait. J'écoute moins France Inter que je ne regarde 28 minutes. Mais dans les deux cas, effectivement, ta voix et ta mélopée est reconnaissable et me fait du bien en plus de ce que tu véhicules. Tu as porté un jugement très équilibré sur l'avenir de la presse. Je suis persuadé que c'est absolument indispensable et j'aimerais que les ersatz toujours orientés et de plus en plus populistes aient moins de force qu'il n'en est aujourd'hui. Est-ce que tu vois des moyens, des actions pour faire un peu rebondir la presse et éteindre l'incendie qui est propagé par les autres médias?
En vrai, si on exclut la violence révolutionnaire, on l'exclut. Si on exclut la violence révolutionnaire qui ne mène nulle part, et en général on perd après. Non, sérieusement. France 3 a infiniment plus de téléspectateurs que CNews. Donc il y a un prisme. On croit que c'est important parce que c'est à Paris, parce que ça fait du bruit, parce qu'on regarde, parce que c'est retweeté. Mais en réalité, ça n'existe pas. La plupart de nos familles, dans l'Aude, dans le Berry, dans les Landes, etc., connaissent pas le cirque dont il est question. Zemmour étant une exception par son talent d'écriture et par une espèce d'alchimie compliquée qui l'a amené là où il est, mais à l'arrivée, ça n'a rien donné. Donc, du point de vue de la rationalité du pays, je suis plus perturbé par le décalage entre une rationalité, une capacité à vivre ensemble, ou un désir de vivre ensemble, ou un désir d'aller bien, ou un désir de lutte, parce qu'il y a aussi des choses très, très âpres. Si on lit en termes de lutte sociale, voilà, ça existe. Qu'il s'agisse d'usines qui ferment, de boîtes qui ferment, tout ce qui est tourné autour des gilets jaunes, de l'envie de révolution qu'ils portaient, de la violence qu'ils ont exercée, de la violence très forte qu'ils ont subie, qui racontait des choses aussi sur l'État. Mais à côté de ça, il y a des envies de vivre. Ce que je veux dire, en réalité, les médias que vous appelez ersatz n'ont pas tant d'importance que cela. Parfois, ça contamine des grands journaux, mais vraiment contamine au sens du virus, mais c'est horrible de parler comme ça, mais en réalité, ces journaux qui sont des grands journaux ont des anticorps. Quand je parlais de l'avenir de la presse, le sujet est plus celui de l'avenir de sa diversité. Un journal comme Le Monde, comme le New York Times, on parle de journal libéraux, donc réputé de gauche, aux États-Unis, a manifestement franchi le cap, même si c'est jamais totalement gagné. Une puissance sur le web extraordinaire, le fait que quand on va s'abonner à un canard sur le web, quand on est étudiant, machin, ben on va aller sur Le Monde parce que c'est déjà là, c'est plus problématique pour les journaux qui peuvent lui ressembler, y compris dans son propre groupe, comme l'Obs, qui vont porter des sensibilités comparables, pourquoi tu vas cliquer là-dessus? Donc le risque, c'est le journal unique, qui en son sein aurait aussi bien des mots croisés, des recettes de cuisine, des déclinaisons sur Instagram. Le Monde a des déclinaisons sur Instagram, sur des réseaux sociaux. Et ok, d'accord, mais qu'est-ce qui se fait à côté? On peut dire cela aussi d'une autre manière du Figaro, qui a une puissance extraordinaire, due à son ancien directeur Moujotte, à des choix très très forts. Et une capacité d'épouser des évolutions idéologiques aussi, dans la partie que tu pourrais appeler ersatz, mais qui n'est pas que cela, qui moi m'intéresse moins. Mais une puissance de grand journal en termes de pages étrangères, littéraires, etc., qui sont maintenues. Le sujet, pour moi, c'est pourquoi est-ce que le Parisien a supprimé ses éditions départementales?
Le Parisien aujourd'hui en France, je n'ai rien à tanker d'aujourd'hui en France. Ce qui me plaisait dans Le Parisien, c'était l'édition de l'Essonne, c'était l'édition de Seine-Saint-Denis, c'était les pages locales où on sort des scoops. Je ne voudrais pas dire de bêtises, il me semble bien que le scandale du Mediator a été sorti par une journaliste de l'édition, c'est pas du Val-d'Oise, c'est de Seine-Saint-Denis. Je parle sous contrôle des gens qui savent. Mais parce que ma mémoire, parfois, voilà. Mais le sujet, c'est beaucoup plus est-ce que les déclinaisons locales de BFM TV, qui a des qualités et des défauts, mais dans les défauts, il y a le fait que ce sont 7 sujets qui tournent, ou 10 sujets qui vont tourner toute la journée, vont assécher le marché publicitaire et faire du mal de manière létale et définitive à des journaux locaux, régionaux ou départementaux. Alors, Ouest-France, c'est puissant, je ne suis pas trop inquiet. Je parle des petits canards, les canards qui se vendent. Ce n'est pas des petits canards, c'est des grands journaux qui se vendent à 20-25 000 exemplaires. Je serais très embêté si Est Éclair n'existait plus. Je serais vraiment embêté. Et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas de clé. Les journaux bossent vraiment. Vraiment, les journalistes bossent vraiment. Après, c'est l'envie des gens. Après, c'est l'envie des gens, le choix. Rien à voir. Et tout à voir en même temps. Quand le confinement est arrivé à cause du Covid, les gens ont perdu en partie l'habitude d'aller au cinéma et au théâtre. Parce que Netflix est là. Est-ce que cette habitude revient ou pas? Voilà, je ne sais pas. Je sais que c'est précieux parce que je suis aux premières loges, si j'ose dire, pour le lire. Je sais ce que ça m'apporte. Je sais ce que ça peut apporter à tout un chacun, parce qu'une fois, il suffit de cliquer. Et les versions Internet des journaux sont pour point un rond. Alors, ce que je dis est terrible pour les kiosquiers, mais bon, voilà, c'est le cas. Je ne sais pas si la sociologie, l'évolution, l'économie permettront le maintien d'une presse dans toute sa diversité. Ça, je ne sais pas.
Alors, on peut prendre encore une dernière question.
Avant que je m'électrocute, parce que là, c'est un sujet.
Là, ces derniers jours, le Conseil constitutionnel a validé la suppression de la redevance avec des réserves. Il faudra lire les réserves. Je n'ai pas eu le temps de regarder ça. Quelles sont demain les conditions? On parle du financement du service public de l'audiovisuel. Maintenant, on va changer le mode de financement. Est-ce qu'aujourd'hui, il reste encore une spécificité, justement, on parlait des autres médias. Quelle doit être dans l'avenir la spécificité du service public de l'audiovisuel?
Est-ce que je peux passer un SMS à Sybille Veil? Parce que je suis sur moi. Voilà. Je gagne bien. Alors, le préambule, je gagne bien ma vie et mieux que la majorité des Français. J'ai absolument pas à me plaindre. Tout va très bien. Ceci posé, les salaires dans le service public, je parle de la radio, je parle pas de la télévision. Donc je parle de culture, d'info, d'inter, etc. sont infiniment plus raisonnables que ce qui pouvait se pratiquer, par exemple, chez Lagardère. Mais il y a dans le service public une possibilité de faire des émissions au long cours, c'est-à-dire passer trois mois à essayer de décider des dames qui ont perdu leur boulot parce qu'on les a accusées de voler la nourriture des gosses, et aller les chercher, les calmer, les rassurer, et raconter leur histoire, et ne pas tricher, que seul donne le service public, pour plein de raisons économiques. Ça ne veut pas dire que mes confrères de RTL ne sont pas des bons journalistes, ils sont très bons. Mais il n'y a pas cette épaisseur, cette culture. L'émission que j'ai présentée cet été, qui était enregistrée avant, ils ont fabriqué un générique qui est extraordinaire, que j'adore, qui me rappelle amicalement Vautz, qui situe le boomer que je suis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils l'ont fabriqué pour... Il y a un type qui s'occupe de ça, et plusieurs qui s'occupent de ça. Il y a une armée de techniciens passionnés de son dans le service public. C'est pas seulement le fait qu'on serait des meilleurs journalistes, nous ne le sommes pas, la plupart d'entre nous, on parlait de Tonal Legrand, on travaillait ailleurs. C'est que les conditions sont faites pour que notre honnêteté ou nos scrupules soient au niveau de l'enjeu, qui est d'être le service public. Ce n'est pas une question de donner, 22% de l'antenne aux gens qui votent pour Madame Le Pen et 28%, je ne sais plus combien, aux gens qui votent pour Monsieur Macron. Ce n'est pas ça le sujet. Ça n'existera pas, et pour plein de raisons. Ça existe dans d'autres pays. Aux Pays-Bas et en Italie, les télévisions, à la grande époque, étaient affermées à un courant politique. socialiste, démocrate chrétien, communiste, libéral. Ça existait vraiment. Puis après, bon, c'est absurde. Mais les moyens qui nous sont donnés de bosser, le fait que quand j'ai fini la revue de presse, je retourne à mon ordinateur, je corrige mes fautes d'orthographe qui auraient fait rougir mes instits et je mette la revue de presse en ligne, qu'il n'y a pas de secrétaire qui fasse ça, etc., font partie d'une manière, et vraiment, ce n'est pas un exploit, je veux dire, mais font partie dans un univers qui est souvent contaminé par le manque de temps, le manque de moyens ou l'inégalité sociale à l'intérieur, voilà, font qu'il y a des bonnes conditions. Une fois que c'est posé, il y a autour du service public de l'audiovisuel des jeunes journalistes qui débutent, extrêmement mal payés, précarisés et qui attendent d'être enfin titularisés. Nous ne sommes pas parfaits. Nous usons et abusons aussi dans le service public des contrats précaires. J'ai un contrat précaire, mais moi j'ai un contrat précaire de grand bourgeois, donc tout va bien. Mais il y a des gens qui ont des contrats précaires de sous-prolétaires, et ça c'est moins rigolo. Donc ce que pourrait être un service public, ce serait un service public à qui on donnerait les moyens de se comporter de manière juste et républicaine, y compris dans sa gestion sociale. Parce que ce n'est pas pour être méchant qu'il y a une armée de précaires à l'extérieur, c'est parce qu'il n'y a pas le choix. Mais en gros, c'est ça. Et donc, quelques gouvernements que ce soit qui comprendraient que c'est utile de garder un lieu préservé, et qui n'est pas un lieu préservé minoritaire, fait pour une élite, mais un lieu préservé, parce que 7 millions, nous, je ne sais pas si c'est 5 ou 6 millions, France Info, plus 1 ou 2 millions, je veux dire n'importe quoi, culture, plus, waouh, ça forme quand même des gens qu'on aide à un peu moins mal comprendre ce qui se passe autour de nous, parce que nous-mêmes, travaillant tous les jours, nous le comprenons un peu moins mal.
Claude, on va prendre une vraie dernière question.
Écoutez, merci. Je ne sais pas si c'est une vraie dernière question, mais enfin, André Brochek, je suis breton aussi d'origine, du Nord Finistère, mais bon, on n'a pas. Alors, c'est une question.
Moi, c'est des Côtes d'Armor, des par alliance.
Quelque peu manichéenne. Claude, Bourdieu est mort il y a 20 ans, à peu près, je crois, de mémoire, si tu avais été journaliste à cette époque-là, l'aurais-tu soutenu? L'aurais-tu défendu ou aurais-tu fait comme la majorité des journalistes, l'aurais-tu fait plonger?
J'étais journaliste à ce moment-là.
Ah bah oui, ah bah je te croyais.
C'est gentil.
Mais je te croyais plus jeune que ça.
Qu'est-ce qu'il est gentil? Mais sur le débat qu'il avait eu avec Schneiderman, pardon, on est dans un truc d'initié. Ah, au moment du mouvement de décembre 95.
Oui.
Alors en décembre 95, j'étais tout cœur au moment du décembre 95. Mais et où j'étais en décembre 95, je devais être à l'événement du jeudi encore. Marianne n'existait pas, j'étais à l'événement du jeudi. Voilà, mais ça c'est vraiment... Et le canard dans lequel j'étais devait plutôt être là-dessus. Ce qu'on appelle la... Pardon, pour décoder, pour ceux qui ne suivent pas. Bourdieu et d'autres, ça se trouvait dans le monde diplomatique, ça a été porté par un confrère qui s'appelle Serge Halimi, dont le frère Emmanuel Faux, grande voix d'Europe 1 notamment, vient de décéder, et qui est le fils de Gisèle Halimi, grande avocate, militante, féministe, etc. Le etc. est horrible. On développait une critique des médias sur lesquels nous, journalistes, serions du côté de la grande bourgeoisie, du capitalisme, du néolibéralisme, y compris sans même nous en rendre compte, par les valeurs, par les évidences, par nos choix d'invités, par les questions que nous poserions. Exemple, on reçoit dans un journal, télé ou radio, peu importe, le représentant des Goodyear. Goodyear, c'était une usine de pneus, comme son nom l'indique, qui s'est battue pendant des années à Amiens, puis comme le petit pousset de la fable, a fini par perdre. Et la première question qu'on leur poserait, c'est pas comment vont faire les gens, est-ce que vous tenez à travers cette grève, comment expliquez-vous que votre usine qui était rentable ferme, est-ce que vous avez des gens qui vous tiennent à Amiens. La première question serait, désavouez-vous les violences qui ont émaillé votre occupation d'usine? Parce qu'on a fait brûler des pneus. Et parfois, il y a des violences. Et donc, dans nos hiérarchies conscientes ou inconscientes, nous porterions, au fond, la voix des puissances. C'est encore une terminologie. Je traduis mal le Bourdieu. Voilà. J'adhère en partie. J'essaye de m'en abstraire en partie. L'émission du type de celle que j'ai fait cet été s'y oppose. Mais en même temps, c'est toujours quelqu'un qui a fait des études et qui vit bien dans un bon arrondissement de Paris, dans un bel appartement, qui parle. Donc on ne se départit pas de ce qu'on est. Et donc soit on est du côté de sa classe sociale, c'est pas joli, soit on est dans une espèce d'empathie avec un peu de commisération bienveillante et c'est pathétique. Et donc c'est compliqué. C'est compliqué. Mais depuis qu'Hébert prétendait parler pour le peuple en faisant le Père Duchesne, et il parlait pour lui-même, depuis que Libération se créait, et avant il y avait eu la cause du peuple au moment des Mao, en prétendant porter la voix du vrai peuple, mais ça finissait par une campagne. C'est compliqué. Nous ne pouvons pas nous départir de ce que nous sommes socialement, sociologiquement. C'est très compliqué. Donc l'idée est de le savoir. Après, il y a du systématisme dans la critique des médias qui était portée, notamment par Serge Halimi. Il expliquait que les structures capitalistiques à qui nous appartenons impliquaient ce qu'on faisait. Alors, service public y échappe, puisque je vous appartiens, globalement, et je dois m'en souvenir. Ça ne veut pas dire que vous pouvez me dicter ce que je vais dire, parce que là, je faillirais en même temps. Je dois rester libre. Mais le fait que je vous appartienne m'oblige à être le plus net possible dans ce que je vais faire. Je ne peux pas dire mieux. Je ne peux pas dire moins mal. La critique des médias de type marxiste parfois pêche par systématisme et ne fait pas la part du libre arbitre individuel ou de l'erreur humaine, comme disait Rocard, qui avait été marxiste, toujours faire la part de la connerie. J'ai dans ma vie écrit beaucoup de choses par connerie, avant même de le faire parce que j'ai des potes avec machin ou avec truc. Ça m'est arrivé aussi de le faire parce que j'étais pote avec machin ou avec truc et que j'en étais imprégné. J'ai fait beaucoup de choses que le monsieur qui fait la revue de presse aujourd'hui préférait ne pas citer.
Alors, juste pour terminer, il y a celui qui dit combien c'est difficile d'être veuf, père et amant à la fois. C'est l'auteur de À son ombre, aux éditions Grasset. Et puis il y a l'auteur du Petit Chevalier. Qu'êtes-vous allé faire dans cette jolie galère que celle d'écrire un conte pour enfants aux éditions Michel Lafon, l'histoire d'un chevalier qui est tout petit, et qui aime une princesse.
Qui devait se marier avec un grand chevalier costaud et stupide, mais enfin, la fin avec un dragon et l'unique sa race. Putain, j'avais dit que je parlais pas comme
c'est
ça.
C'est plus joliment dit non, que ça. Mieux. Rassurez-vous, c'est un très joli petit conte pour enfants. C'est un copain d'un copain ou c'est une envie
Non. Il y a alors deux choses. Je tiens ça de mon papa, mais qu'il faisait mieux que moi. Je raconte des histoires à mes gosses. Donc, dans les histoires que je raconte à mes gosses, il y avait l'histoire d'un petit chevalier qui était amoureux d'une princesse que son père, qui était vraiment un salopard, avait promis un grand chevalier costaud et stupide. Mais et donc j'ai raconté ça à mes grands puis à mes petits. Ils sont pas petits. Vous êtes pas petits les mecs. Et il y a à France Inter, sur le site de France Inter, des choses pour les enfants extraordinaires. Il y a les Odyssées de France Inter, où une femme d'un humour fantastique raconte l'histoire, la grande histoire du monde. Et il y a une verticale, donc voilà, qui s'appelle Oli. Oli, c'est pour les petits, voilà, une histoire et Oli. Je suis pas petit, je grand. Et je regardais depuis que j'étais arrivé à Inter, merde, je voudrais bien faire un Oli. Voilà, j'ai jamais travaillé pour l'équipe et je voulais faire un Oli. Et un jour, on m'a demandé si je voulais faire un Oli. Et
j'ai dit oh oui.
Et je dis ah bah ouais, ça y est, il est déjà fait en fait. Et j'ai pris cette histoire que je racontais pour mes gosses. Donc c'est devenu ça sur le site. Clic, c'est gratuit. Et le jour où je l'ai enregistré, j'avais une crève carabinée, ce qui fait que le Oli, je parle un peu du nez. Ce qui est, c'est moins phrasé, si tu veux. C'est un grand magné. Et après, il y a un deal entre les éditions Michel Lafon et Radio France pour que.
C'est transformé en livre.
Tous certains contes deviennent des bouquins.
Vous avez vu, hein, ça pourrait durer beaucoup plus longtemps. Journaliste ou conteur. Merci beaucoup pour cette curiosité incessante, cette soif jamais assouvie et cet éclectisme. Merci à vous d'avoir été aussi attentif.
Merci.